de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir chers auditeurs, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Dewi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le F-16 turc est arrivé en Azerbaïdjan pour un entraînement conjoint. Deux avions se sont heurtés dans les airs. Sept personnes, dont l'un d'entre eux était le législateur américain, sont tuées. On a arrêté le chef de l'église Sincheonji. On a demandé au bureau de surmonter immédiatement le cluster pandémique. Le président Jokowi a téléphoné au roi Salman pour féliciter l'occasion de l'Eid al-Adha. Bon, chers auditeurs, voici les journaux en complet. L'avion de combat F-16 turc est arrivé vendredi en Azerbaïdjan pour des exercices militaires conjoints. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré que l'avion participerait à l'exercice conjoint avec Turas Kartali 2020 qui débutera mercredi. Les exercices impliquant des jets et des hélicoptères se poursuivront dans la capitale Bakou et dans les villes de Nakhitchevan, Ganja, Kurdamir et Yevlak jusqu'au 10 août. L'entraînement au sol aura lieu à Bakou et Nakhitchevan du 1er au 5 août avec de l'artillerie, de véhicules blindés et des mortiers consimulés pour attaquer des cibles. L'exercice aura lieu à la suite de l'attaque arménienne contre les forces azerbaïdjanaises dans la région frontalière de Tofuz. Au moins 11 soldats azerbaïdjanais, dont un général de division et un colonel, ont été tués dans l'incident. Deux avions légers se sont heurtés alors qu'il survolait l'ancrage en Alaska aux États-Unis. Malheureusement, au moins 7 personnes, dont l'un d'entre eux était membre du Parlement de l'État de l'Alaska, ont été tuées à cause de la collision. Tel que rapporté par Reuters samedi, les autorités locales ont déclaré qu'il n'y avait aucun survivant en raison de l'incident de collision entre deux avions près de l'aéroport de Soldotna, péninsule de Kenai, en Alaska, vendredi, heure locale. Les soldats de l'État de l'Alaska ont déclaré dans un communiqué que les législateurs de l'État de l'Alaska, Gary Knopp, étaient seuls alors qu'ils pilotaient l'un des avions légers. Un autre avion a transporté 4 touristes de Caroline du Sud, un guide touristique du Kansas et un pilote de Soldotna. 6 de 7 personnes qui se trouvaient à bord des deux avions écrasés sont décédées sur le lieu. Une personne était décédée alors quand on l'a transportée à l'hôpital local. Les épaves de l'avion étaient tombées sur la route locale. Par conséquent, les autorités locales ont fermé l'autoroute pour des raisons de sécurité. Les autorités sud-coréennes, Corée du Sud, ont procédé à l'arrestation du chef religieux Lee Man-hee samedi. On soupçonne qu'il a contribué à cacher des informations importantes sur les contacts de personnes infectées par COVID-19, ce qui a entraîné une augmentation rapide des épidémies dans les pays au cours des derniers mois. On connaissait Lee Man-hee comme le fondateur de l'église Sincheonji ou Sincheonji Church of Jesus, une secte secrète en Corée du Sud. On pense que cette église est liée à plus de 5200 cas d'infection par le virus corona, soit 36% du nombre total de cas de COVID-19 dans l'état de Junsan. Les procureurs ont déclaré que Lee Man-hee était coupable d'avoir collaboré avec un certain nombre d'autres chefs de secret dont le but était de dissimuler des informations aux autorités pendant la pandémie en Corée du Sud en février. On a dit qu'à cette époque, plus de 200 000 adeptes de l'église Sincheonji avaient été infectés par le virus corona et provoqué une grande transmission à Daegu qui a finalement affecté le territoire du pays. On a demandé au bureau de s'attaquer immédiatement au cluster de la pandémie de COVID-19. Cela a été dit par Ahmad Handoyo, membre de la commission 9 de la Chambre des représentants, dans un communiqué reçu samedi par l'agence de presse Antara à Jakarta. Selon lui, c'est ironique car de nombreux bureaux sont maintenant devenus de nouveaux clusters de pandémie, en particulier dans la région de DKI Jakarta. Il a déclaré qu'avant de trouver le vaccin, la clé de la victoire dans la guerre contre le COVID-19 n'en était qu'une, à savoir une discipline élevée dans le respect des protocoles de santé établis par le gouvernement, en particulier utiliser des masques, garder une distance et se laver les mains. Il a déclaré que la propagation effrénée de l'épidémie de virus corona dans ses bureaux est une préoccupation commune. Toutes les parties, l'entreprise ou bien les employés doivent sensibiliser ensemble. Le président Joko Widodo a félicité l'Eid al-Adha 1441 Hijri au roi d'Arabie Saoudite Salman bin Abdul Aziz Al Saud par téléphone vendredi à 18h45 de l'Indonésie occidentale depuis le palais présidentiel de Bogor. C'est ce qu'a dit le président Jokowi au roi Salman, cité dans un communiqué de presse gouvernemental reçu par Antara à Jakarta samedi dernier. Le président a exprimé sa gratitude que le roi Salman était de nouveau en bonne santé. Lors d'une conversation téléphonique avec le roi Salman, le président a également exprimé son appréciation à la mise en œuvre du Hajj qu'il a organisé cette année de manière limitée en raison de la pandémie de COVID-19. En outre, le président Jokowi a exprimé le désir du gouvernement indonésien de renforcer la coopération avec le gouvernement d'Arabie Saoudite et le roi Salman l'a bien accueilli.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Les étudiants diplômés de l'Institut d'administration publique est devenu un moteur de la réforme bureaucratique ». Le président Joko Widodo a inauguré le 27e étudiant diplômé de l'Institut d'administration publique ou en indonésien Institut Pemerintahan Dalam Negeri ou abrégé en IPDN de 2020 en ligne par la diffusion en direct du palais président de Bogor, la province de Java de l'Ouest, mercredi dernier. 881 personnes ont participé à l'inauguration depuis le terrain parade d'Abdi Praja Jatinangor et du campus IPDN à Jakarta. Il y avait également 6 personnes qui ont été inaugurées par le président Jokowi, directement au palais présidentiel de Bogor. Dans ses remarques, le président Joko Widodo a déclaré qu'ils doivent être capables de devenir un moteur de la réforme bureaucratique, un moteur pour développer de nouvelles méthodes de travail et une nouvelle force motrice pour le gouvernement. Selon le président Jokowi, les valeurs de nationalité des étudiants du PDN sont très fortes. On ne doute plus de son engagement au service de la communauté. Le président a déclaré que maintenant et à l'avenir, ce n'est pas un grand pays qui bat un petit pays, pas un pays riche qui bat un pays pauvre, mais un pays rapide qui vaincra un pays lent. Le président Jokowi espère également qu'ils donneront des nuances et des esprits différents pour encourager la bureaucratie à emprunter la voie du raccourci intelligent dont l'orientation est le résultat que la communauté peut immédiatement ressentir. On doit appliquer ces principes dans des conditions normales et celles de crise à cause de la pandémie COVID-19. Même dans des conditions normales, les méthodes de travail, ils doivent être axés sur les résultats, être rapides et être efficaces, et les gens doivent ressentir immédiatement. De plus, dans des conditions de crise sanitaire, on ne peut plus négocier pour un tel travail. Le président Jokowi leur a également demandé d'apprendre toujours et de suivre le rythme. Le président leur a conseillé de maintenir l'intégrité et de se respecter en tant que fonctionnaire et de faire progresser l'Indonésie. Chers auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 2 août. On commence par le 2 août 1934. Adolf Hitler est devenu chef de l'État allemand dont le titre est Führer. Adolf Hitler était le chancelier allemand de 1933 et le dirigeant allemand de 1934 jusqu'à sa mort le 30 avril 1945. Le 2 août 1934, Hitler est devenu le dictateur de l'Allemagne après la mort du président von Hindenburg. Hitler a uni la chancellerie et les positions présidentielles pour devenir le Führer ou leader et en même temps a fait du Parti national-socialiste connu sous le nom de Nazi comme le seul parti en Allemagne. On a officiellement dissous les nazis après que l'Allemagne ait perdu la Seconde Guerre mondiale. La suite, le 2 août 1985, l'accident du vol de Delta Airlines 191. Le vol de Delta Airlines 191 était un vol régulier de Fort Lauderdale à Los Angeles via Dallas. Le 2 août 1985, l'avion s'est écrasé dans une tornade accompagnée d'éclairs ou de micro-rafales alors qu'il était sur le point d'atterrir sur la piste 17C de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth au Texas. L'accident a tué 8 membres d'équipage, 126 passagers et une personne au sol. 2 personnes sont décédées un mois après l'accident. Au total, cet accident a tué 137 personnes. Le 2 août 2005, on a inauguré Mahmoud Ahmadinejad comme président de l'Iran. Mahmoud Ahmadinejad était le 6e président de l'Iran et a obtenu 61,91% des voix à l'élection présidentielle iranienne du 24 juin 2005. Sa présidence a débuté le 3 août 2005 après l'inauguration de la veille. Il a été maire de Téhéran du 3 mai 2003 au 28 juin 2005 date à laquelle il a été élu président. On le connaissait largement en tant que figure conservatrice très fidèle aux valeurs de la révolution islamique iranienne de 1979. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. Première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici mon Indonésie.
Mon Indonésie d'aujourd'hui est
intitulé « L'Indonésie a proposé ses clous d'espoir aux Jeux de l'Asie du Sud-Est de 2021 au Vietnam ». Le Comité olympique indonésien, ou abrégé en COI, a proposé cette branche sportive supplémentaire au Comité d'organisation des Jeux de l'Asie du Sud-Est de 2021 au Vietnam. COI a présenté la proposition lors d'une réunion virtuelle avec la Fédération sportive de l'Asie du Sud-Est, ou abrégé en CGF, du 21 au 22 juillet. La réunion vise à recueillir des avis sur les branches sportives à contester. Comme cité d'Antara, le secrétaire général adjoint de COI, Wijaya Nuradi, avait déclaré jeudi à Jakarta que les sept branches sportives proposées étaient le sambo, le e-sport, le triathlon, le jiu-jitsu, le pentathlon moderne, le bowling et le techball. Auparavant, le Vietnam en tant qu'hôte avait proposé 36 sports à contester aux Jeux de l'Asie du Sud-Est de 2021. Les 36 branches incluaient l'athlétisme, la natation, le tir à l'arc, le badminton, le basketball 3x3 et 5x5, le billard, la boxe, le canoë ou kayak, les échecs, et cours, cyclisme, route et VTT. En outre, il y a aussi les arts martiaux ou pencaksilat, le sepak takraw, le tir, le volleyball, l'haltérophilie et le wushu. Néanmoins, selon Wijaya, on annoncera la certitude officielle de sport à disputer 12 mois avant la tenue des Jeux de l'Asie du Sud-Est qui aura lieu du 21 novembre au 2 décembre 2021. Conformément à la charte de CGF, Wijaya a déclaré qu'on déciderait des branches officielles sportives à contester en novembre 2020. Le Vietnam a été officiellement élu et accepté comme hôte des Jeux de l'Asie du Sud-Est de 2021 par un décret signé par le Premier ministre du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, en novembre 2019. L'événement biennal jusqu'à présent on programme toujours du 21 novembre au 2 décembre à Hanoï, bien qu'il y ait aussi les Jeux olympiques de Tokyo l'année prochaine. Alors, chaque pays membre de la NASE prépare soigneusement ses athlètes en raison de la densité d'activité en 2021. Le plan, les Jeux de l'Asie du Sud-Est de 2021 au Vietnam disputera 36 ou 40 sports. Ce montant peut augmenter conformément aux accords de pays membres. C'est tout mon Indonésie.
Dalam kedamaian
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Cette fois, nous vous invitons à Surabaya, la province de Java de l'Est, pour profiter des délices de Semanggi, ou plus souvent appelé pecel Semanggi. Semanggi, ou pecel Semanggi, est un aliment traditionnel de Surabaya à base de feuilles de trèfle. Bien qu'il s'agisse d'un type d'aliment pecel, un aliment qui combine la sauce au arachide comme ingrédient principal avec divers types de légumes, les ingrédients et légumes sont différents de ceux du pecel en général. Les principaux ingrédients sont les feuilles de trèfle, les puces, le cancun et l'assaisonnement. L'assaisonnement est à base de patates douces avec des haricots et du sucre brun et la donne un goût distinctif. De plus, ce qui rend ce pecel de trèfle Surabaya différent des autres pecels est l'ajout de crackers poulis ou de crackers de riz. En fait, ce semanggi est une plante sauvage qui fait partie du groupe des clous à eau ou salviniales qu'on a trouvé dans de nombreuses rizières et berges de rivières. Bien que le semanggi pecel soit un aliment traditionnel de Surabaya, il n'est pas facile de le trouver là-bas, car la plupart des commerçants de semanggi pecel le vendent d'un endroit à un autre. Vous pouvez facilement trouver ce vendeur de pecel de trèfle dans la région du village de Kedung, district de Benowo, Surabaya. Cette zone à la périphérie de Surabaya est célèbre pour la culture des plantes de trèfle. Tant de commerçants de pecel de trèfle viennent de cet endroit. C'est facile de reconnaître ce vendeur de trèfle car généralement il porte du kebaya et du tissu et se promène avec des paniers contenant ce pecel. Chers auditeurs, en cours de fabrication, premièrement, on fait bouillir les trèfles, les puces et le cancun. Ensuite, on a arrosé les ingrédients avec une sauce d'assaisonnement à base de patates douces et de sucre de palme. Habituellement, on sert ce pecel de trèfle sur le pintu, une sorte d'assiette à base de feuilles de bananier. Pour ceux d'entre vous qui aiment la nourriture épicée, le vendeur de pecel de trèfle ou semanggi fournit également des assaisonnements de chili et de pétis. En payant seulement 6000 rupiah, vous pouvez manger de la délicatesse d'une portion de pecel semanggi en culinaire spécial de Surabaya.
Bila kau menjadi milikku. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Bonsoir à tous. Vous allez écouter l'information sur le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative soutient les jeux Fantasy Town pour préserver la culture indonésienne. Le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative soutient les jeux de simulation agricole de Galena d'Indonésie Fantasy Town, qui incorpore numériquement des monuments et des personnages indonésiens. L'exécuteur d'étage, marketing adjoint pour l'économie numérique et les produits créatifs, Joshua Puji Mulia Simanjuntak, lors d'une conférence virtuelle jeudi, a déclaré que ce jeu pourrait être un support éducatif pour les utilisateurs de portables. Ce soutien s'inscrit dans le mouvement Fier des produits indonésiens. Joshua a déclaré que le potentiel du jeu mobile indonésien est très élevé, avec 337 millions d'utilisateurs mobiles, soit plus de 126% de la population indonésienne. Les utilisateurs de portables en Indonésie sont en ligne en moyenne 8 heures par jour. Actuellement, les jeux des États-Unis et d'Europe dominent toujours les jeux en Indonésie. Pour cela, le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative renforce les compétences des développeurs des jeux en fournissant une plateforme de partage des connaissances à laquelle participent les éditeurs des jeux étrangers. Ainsi, il espère ouvrir la perspective des développeurs des jeux et connaître le désir de marché indonésien et international. Le directeur de Garena d'Indonésie, Hans Kurniadi Saleh, a vu le potentiel du marché du jeu occasionnel qui a encouragé Garena à créer le jeu Fantasy Town. Hans a dit qu'il voulait élever la culture et l'art de l'Indonésie. Il présente certains lieux historiques en Indonésie pour présenter et préserver la culture indonésienne, par exemple le temple de Borobudur, le monument national, Lawang Sewu, la vieille ville de Jakarta, la maison Gadang et les maisons traditionnelles de la région spéciale de Yogyakarta, de Sumatra du Nord, de Nusa Tenggara de l'Est, de Papouasie et de Makassar. Officiellement lancé à la mi-juillet, Fantasy Town a également présenté une variété de personnages et de vêtements traditionnels issus du folklore indonésien comme Kabayan, Iteng et Radu. Grâce à ces personnages et costumes, les joueurs de Fantasy Town peuvent apprendre la culture indonésienne par l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'exploration des zones mystérieuses et la construction de villes de rêve avec des nuances de culture indonésienne. Voilà l'Indonésie en couleur.
Senyumanmu masih jelas terkenang, hadir selalu seakan tak mau hilang dariku. Oh, dariku. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Tak pernah padam, oh no, tak pernah padam, oh no, oh, oh. Api cintaku padamu, oh, 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 oh.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Voice of Indonesia. L'équipe de l'émission française de Voice of Indonesia vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et les messages. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et comme d'habitude, nous allons également présenter une chanson indonésienne. Dans cette édition, je vous présenterai une chanson du groupe Noah. Noah est un groupe composé de Ariel comme vocaliste, Uki comme guitariste, Lukman comme guitariste, David comme claviériste et de deux autres membres, Rio comme batterie et Lan-Lan comme bassiste. Après avoir sorti avec succès les singles Jalani Mimpi et My Situation, Noah a finalement publié la dernière chanson intitulée Wanitaku. Elle était la création de Ariel avec l'aide de musicien indonésien Pongki Barata. Cette chanson fait partie du quatrième album de Noah qui sortira en septembre 2019. Ariel a affirmé que pour le préparer, Noah avait besoin beaucoup de temps pour trouver l'inspiration. Mon cher ami, maintenant je vais dire bonjour à Merlin Mourad de BP15 4 bicétif 19000 Algérie. Merci pour les rapports d'écoute. Et à Pierre Mouzolo Pouba de Box 545 Matadi 1 Congo Central RD Congo Central Africa. Et à Moro Giroletti de SWL 1510 de IK de GFT via Marzaboto de 720090 Bucinesco Italie. Sergi Giovanni de Via Sibari 398149 Messina Italie. Et Omar Lassas de BP 530 Bureau de Poste Emir AEK de 9008 Mascara Algérie. Comment va notre cher ami en France, Grandin René de 25 Terres de Chemin des Roses 97418 Plaine de Cafre, île de la Réunion Océan Indien. Meilleures salutations à notre ami Hervé Duval de France. Salut à notre auditeur de Bogota, Colombia, Omar Alfredo Ortiz Robayo. Bien le bonjour en France, Jean-Marie Monplot, de 409 Faubourg Montmélian, 73000 Chambéry, France. Merci d'écouter Voice of Indonesia. Merci pour vos emails et restez toujours en contact avec nous. L'équipe de Voice of Indonesia vous dit un grand merci à tous. Et voici Noah avec la chanson dont le titre est Wanitaku ou en français Ma femme. Bonne écoute et à la semaine prochaine.
Dunia sampai ke ujung. Voice of Indonesia.
Auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.